Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission littéraire comme chaque samedi. À ce créneau horaire précis, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, au cœur de notre émission, un fleuve, trois vies, un secret et bien sûr, un romancier, un écrivain qui nous accompagne, Nico Takian. Bonjour Nico.
Bonjour, bonjour.
Alors Nico Takian, vous êtes sur le devant de l'actualité éditoriale avec un nouveau roman qui vient de paraître chez Calman Lévy Noir, hein, c'est Le Hameau. Alors Nico Takian, la quatrième de couverture de votre dernier roman ne donne pas énormément d'éléments biographiques vous concernant. Je lis donc ce que Calman Lévy nous propose à titre d'information biographique vous concernant. Nico Takian est l'un des grands romanciers du noir français. Ses romans, qui séduisent par leurs ambiances originales et poignantes, ont été récompensés, entre autres, par le prix Polar des bibliothèques à Cognac, le prix Polar Sud-Ouest, le prix de la Ligue de l'Imaginaire, le prix du Polar des Petits Mots des Libraires. Nico Takian, on doit aussi dire que vous avez un parcours très original parce que vous avez fait des études de droit, puis ensuite vous bifurquez vers d'autres métiers et surtout vous êtes scénariste, notamment pour la télévision. C'est vous qui co-écrivez avec un autre scénariste une série qui est diffusée, je crois, sur France Télévisions.
Oui, il s'agit d'Alex Hugo, qui est une des séries, on va dire maintenant, presque historiques de France Télévisions, parce que ça fait 12 ans qu'on a créé cette série, avec Franck Tillier, qui est lui-même un auteur de polar, et scénariste, et ami. Et qu'elle caracole un peu au sommet des audiences de France 2, puis de France 3, puisqu'elle a migré de chaîne. Mais elle continue son parcours. Alex Hugo.
Alors, un petit mot sur votre parcours. Vous aussi, vous avez migré, oui, je dirais, alors, études de droit. Racontez-nous un petit peu votre parcours.
Moi, je n'ai jamais réussi à poser mes valises quelque part. Hein. C'est un peu l'histoire de ma vie, puisque, effectivement, j'ai fait du droit en même temps de l'histoire de l'art, puis de la gestion. Enfin, je me suis cherché, je suis devenu journaliste. Et puis, à un moment, j'ai quand même fini par me rendre compte que dans tous ces cursus, il y avait un point commun qui était un peu les histoires. Hein, le droit, l'histoire de l'art, même le journalisme où j'ai raconté les histoires des gens. Et j'ai commencé par la bande dessinée. Donc, j'ai publié déjà presque une quarantaine d'albums de bande dessinée. Avant de faire une rencontre qui m'a permis de devenir scénariste, effectivement, pour la télévision, où j'ai écrit beaucoup, beaucoup d'épisodes de séries ou d'unitaires, comme on dit à la télévision française, avant de finir par créer cette série avec Franck Tillier. Et c'est ma rencontre avec Franck Tillier qui a fait que j'ai commencé à écrire des romans. C'était donc il y a presque 15 ans. Et comme j'en écris un par an, eh bien, Le Hameau est mon 14e roman, très exactement.
Alors, on peut en mentionner quelques-uns. Toxique, Avalanche Hôtel, prix donc Ligue de l'Imaginaire Cultura. Quels autres romans, tous disponibles maintenant en poche?
Respire, La Lisière, celui de l'année dernière, La Menace. C'est assez d'actualité aujourd'hui sur les réseaux masculinistes, ce genre de choses. Voilà, il y en a beaucoup. Et effectivement, je finis par tous les oublier, mais il y en a. Si vous commencez à vous plonger un peu dans ma bibliographie, il y a de quoi faire.
Alors, Le Hameau, c'est le tout dernier thriller paru donc chez Calman Lévy, sorti le 25 mars de cette année 2026. Alors, lorsqu'on regarde la couverture de votre dernier livre, Moi, je l'ai bien reconnu avec son noble et aristocratique profil. Il y a notre reine Marie-Antoinette hein, qui a fini sous l'échafaud, que l'on reconnaît, celle que les Français appelaient avec beaucoup de mépris l'Autrichienne. Donc Marie-Antoinette d'Autriche, parfois, elle est ainsi appelée dans le roman, sur fond d'une médaille. Et puis, on a une ambiance très, très nocturne, légèrement brumeuse, une île surmontée de bâtiments éclairés. On voit une tourelle et un ensemble immobilier. Et puis, bien sûr, de l'eau, parce que, comme je l'ai dit en introduction, il y a un fleuve, et c'est le plus long fleuve d'Europe qui est au cœur de ce roman, le Danube, le fleuve noir, d'ailleurs. Alors, c'est délicat d'animer une émission de 40 minutes sur un thriller, parce que quand on est animateur, on se dit, que peut-on révéler aux auditrices et auditeurs, que ne faut-il pas dire? Il s'agit de doser. Alors, Nico, vous écrivez à la fin du roman que ce livre est une rose aux épines acérées. Alors, on y trouve donc l'histoire de France, parce que le hameau, il faut expliquer ce qu'est le hameau. Alors, les Français savent ce que sont les hameaux. Hein. Il y a plein de hameaux qui, récemment, aux élections municipales, se sont déplacés pour voter. C'est une toute petite concentration de maisonnettes. Or, le hameau, dans l'histoire de France, ce n'est pas anodin, non, et non. Très original.
Oui, il s'agit du hameau de la reine. Donc la reine, en l'occurrence Marie-Antoinette, qui est un ensemble de bâtisses qu'elle a fait construire à côté du château de Versailles pour recréer un petit village normand, tout simple en apparence, hein, mais qui lui permettait en fait de se costumer, d'emmener ses enfants costumés, d'amener les courtisans costumés et de jouer aux gens simples. À côté de...
À la bergère et au berger.
Absolument.
Donc.
Et puis d'élever aussi les enfants, soi-disant, dans une idée de retour à la terre qui sera à la Rousseau, si j'ose dire, qui sera très en vogue à cette époque-là. Et puis surtout, en fait, c'est un endroit dans lequel on ne pénètre pas comme on le veut, hein, puisqu'il faut avoir effectivement un certain jeton pouvoir y pénétrer à cette époque, jeton qui est frappé au visage de la reine, au profil de la reine, et qui est distribué à quelques initiés qui vont pouvoir y passer la journée, la nuit, à reconstruire un petit peu ses activités de paysannerie.
Hein. Rustique, avec une laiterie, oui, hein, je crois qu'il y avait toute une petite économie paysanne.
Oui, la possibilité de pêcher aussi des poissons qu'on faisait venir d'ailleurs de la mer, donc avant de les mettre dans l'eau douce. Hein, donc il y avait juste le temps d'être ramassé par les canotiers hein, qui pêchaient. Tout était factice, tout était en fait une sorte de Disneyland de l'époque.
Un divertissement royal, oui, mais rustique.
Voilà, un divertissement, mais avec quand même une portée un peu philosophique et politique,
oui,
aussi, parce que, bien sûr, tout ça se passait au même moment où le peuple français criait famine et marchait sur Versailles. Et forcément, j'imagine que c'est une question que peut-être vous allez me poser un peu plus tard, mais forcément, c'est de la visite de ce hameau de la reine un peu impromptue que j'ai faite assez récemment. J'avoue qu'on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein, mais moi je suis en région parisienne, mais je ne l'avais jamais visité, ce hameau de la reine. Je l'ai découvert il y a 3 ans. Et en fait, ça m'a paru assez d'actualité de me demander comment les puissants arrivaient encore à danser au bord de l'abîme. De cette manière-là, puisque Marie-Antoinette, du haut de son faux phare dans son faux village, finira donc emprisonnée quelques jours plus tard hein, par le peuple qui, lui, découvrira ses fastes avec un certain, peut-être, de manière très amère, je pense. Oui. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça faisait vraiment écho à notre époque et à ce sentiment qu'on peut avoir des fois de gens un peu hors sol qui vont évoluer dans une réalité complètement différente de la nôtre. Et ça m'a donné les bases d'un thriller contemporain, parce qu'en fait, malgré que le hameau de la reine soit présent dans le récit, ce n'est pas un livre historique, ce qui est très important, parce qu'il y a quand même Marie-Antoinette en couverture, donc on pourrait se dire, tiens, un thriller historique, mais non. Ça se passe aujourd'hui au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire, en Europe et autour, effectivement, du Danube.
Alors, on est dans l'actualité, puisque un des trois personnages essentiels qui vont tous, d'une certaine manière, j'allais dire, être aimantés vers le hameau, un des personnages est un soldat russe qui est en Ukraine, qui choisit de déserter et qui trouve une filière, bon, qui passe par un vieux cargo fluvial battant pavillon bulgare et qui part de la Roumanie et qui remonte le Danube. Alors, à contresens, là, cette fois. Donc, effectivement, le soldat russe, lui, il a été, malgré lui, incorporé à l'armée à l'automne 2022. Donc, on est bien dans notre époque, dans une époque très, très moderne, d'ailleurs, avec la résurgence, j'allais dire, lointaine, dans un contexte, oui, danubien, la résurgence, j'allais dire, de la... comment dire, d'un petit une architecture française, mais d'une autre époque, reconstituée ailleurs. C'est bien cela qu'il faut saisir.
Oui, c'est cela. C'est effectivement le parcours de ce personnage, mais de deux autres aussi. Mais celui-là en particulier est intéressant parce que je pense que c'est un personnage, lorsqu'on le découvre, on se demande vraiment ce qu'il a à faire dans cette histoire, parce que les deux premiers personnages, le premier étant un Français assez proche du lecteur et facile à suivre. En tout cas, on est dans des codes qu'on peut connaître et un personnage dans lequel on peut se transposer. Le second est une jeune femme allemande qui habite à Berlin et qui va se retrouver dans une enquête. Ça aussi, c'est assez, je dirais pas classique, mais en tout cas dans des repères que le lecteur peut avoir. Alors que lui, effectivement, c'est un soldat russe, alors déjà, autre culture, tout est différent, qui est un musicien,
violoniste. C'est pas n'importe quel soldat. Voilà. Cette guerre, il n'en veut pas.
Il a été effectivement en relais de force.
Il n'a pas le choix. Mais voilà. Lui, c'est un être sensible qui vit pour la musique à travers... bon, un faux Stradivarius, malheureusement.
Oui, qui lui sauvera peut-être à un moment la vie. Mais tout cas, effectivement, il fait partie de ces premiers conscrits de l'armée russe. Lorsque les pertes ont été trop grandes, on a commencé à faire de la conscription. Ou peut-être s'est-il aussi un peu engagé, pas par conviction, ça c'est sûr, mais en tout cas parce qu'à un moment, ce peuple a aussi... une volonté de participer à l'effort national. Enfin, en tout cas, je veux dire, ils ne sont pas tous engagés, je pense, pour de mauvaises raisons. Je pense que des fois, ils peuvent être sincères avant d'arriver sur le terrain, de se rendre compte que, comme dans toutes les guerres, c'est difficile de donner du sens, et encore plus dans cette guerre-là. En tout cas, toujours est-il que quand on le prend, ça fait déjà quelque temps qu'il est là et qu'il comprend qu'il faut qu'il en parte. Et donc, je voulais aussi évoquer ses trajectoires. J'avais découvert ce cas de soldats russes qui veulent déserter et qui vont déjà se confronter à la difficulté que c'est de déserter, mais aussi derrière à la possibilité d'avoir des répercussions sur leur famille en Russie, et aussi qu'on les chasse même à travers le monde pour les exécuter, puisque on sait que les soldats qui désertent de l'armée russe finissent toujours relativement mal. On va les rechercher plus tard. Donc lui est prêt à tout perdre pour partir, pour quitter cette guerre. Et effectivement, il se trouve que les passeurs vont l'emmener par le delta du Danube sur ce fameux cargo vers l'Europe.
Alors, c'est vrai que le parcours du soldat russe, c'est peut-être ce qui m'a le plus exalté. Parce qu'on peut dire qu'il y a trois parcours. On a effectivement celui du Parisien, conducteur de bus à la RATP, qui reçoit une lettre. Et dans l'enveloppe contenant cette lettre, il y a une médaille bien particulière, puisque d'abord, elle est dans une matière... Alors, c'est une médaille qui n'a aucune valeur historique. Alors, en plus, on apprend des choses avec vous. Elle est en rhodium. R-H-O-D-I-U-M.
Oui, petit détail, mais qui a son importance, puisque le rhodium est un métal qui... C'est le métal le plus cher, parce que le plus rare. Il est d'ailleurs un peu radioactif, il faut le dire. On en parle un peu dans le roman, il s'inquiète d'ailleurs. Et donc, normalement, il ne se frappe pas. Le rhodium, c'est un métal qu'on va pouvoir peut-être assembler à d'infimes quantités à de l'or pour créer de l'or blanc, en fait, ou pour lui donner d'autres propriétés. Mais il n'y a pas de bijoux en rhodium. Et d'ailleurs, il faudrait une technologie assez avancée pour les faire. Eh bien, il se trouve que cette médaille est frappée en rhodium, donc forcément un exemplaire très rare. Mais il va découvrir, Paul, à travers cet héritage, hein, qui est cette pièce, qu'effectivement, il y a des gens qui ont les moyens de faire ça et qui ont les moyens de faire beaucoup plus. D'ailleurs, petit à petit, il va s'en rendre compte.
Alors, on va marquer, si vous le voulez bien, Nico Takian, marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous nous accompagnez jusqu'à midi pour mettre en valeur votre dernier thriller paru chez Kalman Levy et qui a pour titre « Le hameau », petite virgule musicale. Et puis, on poursuit, bien sûr, j'allais dire, notre navigation, d'une certaine manière, à travers votre roman, mais aussi sur le Danube, ce fleuve noir qui est au cœur de votre dernier roman.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Un fleuve, trois vies, un secret avec le hameau. Nico Takian signe un nouveau thriller à l'atmosphère saisissante qui nous entraîne de Paris à Vienne et sur le plus long des fleuves d'Europe pour un voyage sombre, fascinant et mystérieux. Alors, Nico Takian, notre Paul Lemoine, notre jeune Parisien donc, qui mène une vie modeste de conducteur de bus à la RATP, qui est exaspéré par la vie parisienne, par les incivilités également des voyageurs, et puis aussi une maman qui est à l'EHPAD, qui est au bord de la démence sénile. Donc, une vie affective un petit peu vide, une vie creuse, et surtout un père absent, un père qu'il n'a jamais connu, un père qui l'a abandonné très jeune. Et voilà qu'il reçoit donc une lettre de son père qui lui explique qu'il est désormais à la tête d'une somme d'argent importante. Enfin, il y a un héritage. Et cette lettre, elle est un peu vague. Et lui sait qu'il y a quelque chose, il y a une intrigue, il y a quelque chose de mystérieux. Avec le surgissement de ce père fantôme, il est également question d'un héritage fantôme. Et puis alors, effectivement, l'argent, c'est aussi une banque fantôme. Et alors, il y a donc cette médaille, on en a parlé, qui ressemble, et ça c'est un expert spécialisé en numismatique qui est en mesure de lui dire que bon, cette pièce n'a pas de valeur historique, qu'elle est dans un métal précieux, le rhodium, et surtout qu'elle serait la réplique des fameux jetons que Marie-Antoinette donnait à certains privilégiés qui pouvaient ainsi venir au hameau non loin du château de Versailles. Et Paul, donc, Paul a envie tout de même de savoir plus qui était son père que de toucher l'héritage.
Oui, oui, oui. Alors, sans en révéler trop.
C'est ça, il faut être prudent.
Non, mais en fait, ce personnage a surtout un dilemme, je dirais, entre son papa, son père qu'il a abandonné, qu'il n'a jamais, avec lequel il a voulu prendre contact, mais qu'il n'a visiblement jamais souhaité prendre contact avec lui, et donc il a fait une croix dessus, on va dire, parce que ce Paul a quand même 35 ans, donc il s'est construit sans ce père. Mais du coup, avec sa mère, qui elle n'a visiblement jamais vraiment pardonné à ce père d'avoir abandonné son fils. Donc on sait que dans ce genre de situation, le rapport entre la mère et le fils se renforce forcément. Donc il a sa maman qui est un peu en fin de vie, on va dire, dans cet EHPAD. Et puis d'un côté, le père ressurgit. Ressurgit effectivement avec une quête, je dirais, une énigme. Et là, il est tenté de se lancer dans cette énigme à un moment où sa mère va mal. Et donc, avec ce personnage, je vais aussi traiter beaucoup les conflits d'intérêts qu'on peut avoir entre un papa et une maman. Lorsqu'on est un enfant, ça arrive qu'on doive se positionner par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. C'est un des premiers gros dilemmes de Paul, de savoir s'il a vraiment le droit en fait de tout lâcher pour savoir qui était ce père qu'il a abandonné, là où au pire moment de la vie de sa mère, lorsqu'elle est proche du décès. Et c'est intéressant lorsqu'on a des personnages avec des conflits moraux très forts, parce qu'en fait ça crée des enjeux, ça crée de la profondeur au récit, et puis ça donne une résonance. Et ce roman parle aussi beaucoup de filiation, de ce qu'on peut transmettre, des héritages, et est-ce qu'on doit les accepter ou pas, est-ce qu'on a raison de le faire dans certains cas, et de trahison aussi d'une certaine manière. Donc voilà, c'est aussi par le personnage de Paul, je dirais, un aspect du thriller qui est très familial, très personnel de ce qui peut se passer à l'intérieur d'une famille.
En fait, il est des héritages toxiques et empoisonnés.
Ça peut arriver, effectivement. Ça arrive d'ailleurs assez communément. Hein. D'ailleurs, on a le droit de refuser un héritage. Le droit français en tient compte.
Alors d'ailleurs, Paul, lui aussi, il a un certain délai. Je dirais qu'il peut se rétracter. Je crois qu'il dispose de 6 mois. Parce qu'il y a l'argent, mais il y a aussi autre chose.
Oui.
C'est plus puissant qu'une fortune. D'ailleurs, celui qui, enfin, le premier contact que Paul a, la personne lui dit bon, la fortune, c'est pas la priorité. C'est
oui, bah dans ce
c'est ce qui reste un peu fantomatique justement pour lui.
Dans ce roman, vous allez suivre des personnages en vous demandant vraiment vers où ils vont et quel est ce secret en fait. Et en fait, ce secret, c'est tout l'enjeu de l'héritage de Paul, on va dire. Et en fait, je pense que, encore une fois, hein, vous savez, moi je passe mon temps à parler sans parler de mes romans parce que, encore une fois, le thriller étant ce qu'il est, on ne doit pas en divulguer trop. pour ne pas gâcher le plaisir. Mais on va dire que forcément, ce qu'il va trouver dans ce hameau n'est pas ce qu'il était venu y chercher. Voilà.
On a parlé de Paul donc, qui découvre cet héritage fantôme et ce père fantôme qui ressurgit à un moment d'ailleurs difficile de son existence. D'ailleurs, à l'extrême fin de votre roman, il y a une note de l'auteur. Et vous, Nico Tacquian, vous parlez aussi que dans ce roman plane aussi quelque chose de l'ordre de très personnel dans votre lien avec votre papa. Alors, tout le monde aura noté que Nico Tacquian, on se dit Nico Tacquian, ça sonne pas franchement français comme ça, si je puis me permettre. Vous avez des origines arméniennes.
C'est cela, oui.
Et alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette petite dosage d'histoire personnelle en lien avec le père qui pourrait transfiguré alors, dans le roman, ou est-ce que j'ai trop d'audace à poser cette question ?
Non, mais non, parce qu'en fait, je tends un peu la perche l'épilogue du roman, mais on va dire tout simplement que j'ai une relation très compliquée avec mon père, que je l'ai perdu de vue vraiment à une période de ma vie assez jeune, et que j'ai vécu des péripéties à distance avec lui, suffisamment difficiles pour m'inspirer le personnage de Paul dans ce livre. Voilà. Une fois que j'ai dit ça et qu'on a lu le livre, on peut se faire une idée assez précise de ce qui a pu se passer. Mais ça, je dirais que de manière plus générale, lorsqu'on écrit des romans, lorsqu'on est écrivain ou même auteur dans plein d'autres arts, on va beaucoup prendre de soi. Seulement, on va très... Généralement, en fait, on va essayer de diffuser ça sur plusieurs personnages. On va diffuser ça sur même plusieurs livres par petite dose. Et il se trouve que dans ce roman, à ce moment-là, j'avais envie d'être plus concret, d'investir plus profondément un de mes personnages. Voilà, ce qui est pas le cas. Généralement, sur les autres romans, j'en mets un peu dans chaque personnage. Mais là, j'ai décidé que Paul aurait vraiment un rôle à jouer plus direct avec moi en tant que Nico Tacquian, en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'homme et en tant qu'enfant. Donc voilà, j'y ai mis une pastille un peu plus forte que dans les autres. Après, ça reste des histoires de famille et c'est pas un essai. Je raconte pas ma vie. Je suis pas dans ça. Je fais de la fiction. Mais la fiction étant ce qu'elle est, raconter des histoires, ça a toujours des vertus un peu psychanalytiques.
Et parce que vous l'écrivez tout de même. Comme ce pauvre Paul, j'ai été manipulé et j'ai connu la déception que l'on peut ressentir lorsque l'amour sert de monnaie d'échange, mais que le couteau est déjà placé sous la gorge. C'est fort comme phrase.
Oui, c'est fort. Ça laisse entendre des péripéties un peu douloureuses qui ont vraiment existé. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, c'est d'ailleurs c'est suffisamment fort pour que ce à quoi je fais allusion remonte à je dirais au moins trentaine d'années. Donc je fais allusion à une chose c'est suffisamment profond pour que j'ai pu le remettre 30 ans plus tard dans un roman. Et il se trouve que mon papa, mon père, est décédé au mois de décembre de cette année, enfin de l'année dernière, au moment où j'avais rendu ce roman. Voilà. Donc ça donne aussi à ce roman un caractère un peu particulier, parce que c'est généralement pas le roman qu'on dédicace à son père après son décès. Mais c'est comme ça, voilà.
C'est la raison pour laquelle on peut mieux comprendre. Il n'y a pas que cela. Il y a effectivement sans doute une perspective subjective. Mais lorsque vous écrivez ce roman est une rose aux épines acérées, c'est aussi quand même une écharde qui reste dans votre cœur, vraisemblablement.
Alors, qui reste ou que j'ai réussi à enlever, justement. Oui. Et c'est bien de... Je pense qu'on peut... moi, je suis assez sur la résilience. Je pense qu'on peut, on peut enlever les échardes et guérir. Lorsque je parle aussi de cette rose, je parle de cette rose aussi pour les lecteurs, parce que c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans la fiction, c'est que moi, d'une certaine manière, je parle de moi, ou je parle de mes préoccupations, de mes angoisses, de mes centres d'intérêt. Mais en fait, la résonance chez chacun des lecteurs, elle est diverse. C'est-à-dire que forcément, ces histoires de famille vont résonner chez le lecteur à travers leur propre famille.
Alors, sans trop en dire aussi, cette rose, elle est métaphorique de ce qu'est le hameau, c'est-à-dire esthétiquement extrêmement séduisant, attirant, noble, et d'un côté aussi une certaine dangerosité. La rose blesse, elle griffe, elle peut faire du mal. On va marquer un nouvel intermède musical et puis on va parler un peu cadavre, parce que le Danube ne charrie pas, ce fleuve noir ne charrie pas que des histoires. Alors le Danube, évidemment, on pense au beau Danube, on imagine aussi les croisières. Hein, c'est très cher, hein, une croisière sur le Danube, ça se mérite. En tout cas, votre Danube, il est angoissant. C'est vraiment aussi un clin d'œil au Styx, on en reparlera. C'est Nico Takian qui nous accompagne aujourd'hui. Son dernier roman, un thriller, a pour titre Le Hameau, c'est chez Calman Levy. Et on revient juste après la virgule musicale qu'on vous propose. Je rappelle aussi, hein, cher Nico, il faut le dire à nos auditeurs, on va dire la vérité. Il est question aussi de vérité, de révélation de la vérité dans ce roman. La vérité, c'est que cet entretien, nous l'avons enregistré le 25 mars 2026, alors que Nico Takian était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne et nous étions à Dijon au Grand Hôtel de la Cloche. On revient dans quelques minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nico Tachian, dans notre émission littéraire sur Radio... Nico, vous connaissez un peu le département de Lyon, Sens, Auxerre, Avallon ?
Alors, je connais, mais je traverse encore une fois. Hein, je traverse pour mon travail, très souvent. Je vais voir les libraires à droite à gauche, donc je connais mal.
Bon, est-ce que vous connaissez mieux l'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie ? Je ne les ai peut-être pas donnés dans l'ordre, hein, ouais, c'est compliqué. Bah, là, connaissez bien la géographie parce qu'il y a tout de même beaucoup de lieux. On est tantôt à Paris, on est tantôt à Berlin, on est tantôt à Vienne. Parfois on est au Hameau, alors là j'en dis pas plus. Et puis on est, alors par exemple les Portes de Fer, ça c'est extraordinaire. Moi j'en avais entendu parler il y a très longtemps. Dans un roman d'un autre écrivain dont le nom m'échappe, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les portes de fer, Nico ?
Alors oui, c'est toute une zone qui est le long du Danube, effectivement. Alors le Danube, ce qui est... Pourquoi j'ai choisi le Danube c'est parce que c'est vraiment un fleuve qui va traverser toute l'Europe et qui... Pour moi, hein, parce que c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, il y a le Danube bleu, il y a beaucoup de visions différentes du Danube en fait. Pour moi, c'est pas un fleuve particulièrement beau ou romantique. C'est vraiment un fleuve qui est un peu marqué par la guerre, parce que tout au long de l'histoire, en fait, les frontières de tous ces pays ont été le lieu d'affrontements. Il y a tout le long du Danube des citadelles hein, depuis le Moyen-Âge, mais aussi effectivement des églises, tout ce qu'on aperçoit. Et en fait, les paysages... Alors, juste pour revenir sur y êtes-vous allé, est-ce que vous connaissez, etc. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une question qui revient dans chaque roman, puisque dans chaque roman, je vais ailleurs. Et les gens, à chaque fois, me disent « Ah, mais vous êtes de là-bas. » Ah, mais non, en fait, en tant qu'écrivain, il y a cette chance énorme de pouvoir voyager partout en restant dans son bureau, en faisant de la documentation, en faisant de l'iconographie. Et puis, dans certains cas, en se déplaçant sur place pour pouvoir valider un peu ce qu'on imagine dans sa tête être les paysages, etc. Sur ce roman, par exemple, je connaissais Berlin, où j'ai été déjà allé. Je connaissais pas l'Ukraine du tout et je n'y suis pas allé pour toutes les raisons que vous imaginez. Par contre, je suis allé donc à Vienne, je suis allé à Dornstein, qui est la ville dont je parle et où se situe non loin l'île où se trouverait peut-être ce fameux hameau, et pour pouvoir surtout valider l'épaisseur, on va dire, du fleuve, la largeur du fleuve, les ambiances que je mets en place, est-ce qu'elles sont justes ou pas. Et alors effectivement, les portes de fer, c'est le long du Danube. Alors ça change beaucoup de paysages, le Danube, en fonction des pays. C'est ça qui m'a marqué, parce que j'ai fait une espèce de... Comment dire, ça s'appelle un mind maker, donc c'est cette espèce de logiciel où on peut tirer des traits, mettre des images, des mots, pour faire une espèce de grande arborescence, en fait, qu'on peut voir en un seul coup d'œil de son roman. Voilà, donc sur ce roman, j'ai fait ça. Donc j'avais créé un Danube sous forme de ligne. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une frontière, j'essayais de mettre une image pour pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, à la fin de ce travail, je me rappelle qu'en regardant cette frise, je m'étais dit, c'est quand même dingue, parce que c'est jamais une image qui ressemble... C'est jamais la même chose, en fait. Et c'est vrai que ces portes de fer sont une espèce de falaises qui tout d'un coup apparaissent et qui tranchent complètement avec les décors qu'on pouvait avoir précédemment, sont un des passages que le cargo va faire le long des différents pays qui longent ce fleuve.
Alors par exemple, pour montrer tout de même l'immensité, la puissance de ce Danube, le marécage du delta du Danube, vous le précisez, 100 km de large.
Oui, alors ça, le delta du Danube que j'ai donc découvert pour le roman, et là, ça m'a beaucoup intéressé, donc je l'ai beaucoup, beaucoup documenté, et c'est une espèce de zone d'une paix totale au milieu de ce conflit encore actuellement, je veux dire, c'est tellement, il n'y a rien. Hein. Ce sont des marécages immenses avec des ajoncs, des cigognes. Il y avait des petits villages de pêcheurs partout, des petites églises perdues dans des... Et en fait, ça fait effectivement une espèce d'immense mer comme ça de marécages qu'on va parcourir pour rentrer dans l'embranchement du Danube. Et cette zone est encore, on va dire, non militarisée, puisque c'est très compliqué, en fait, elle n'a pas d'intérêt stratégique majeur. Il y a l'île aux serpents qui est en face de cette zone, qui a un intérêt stratégique majeur, qui a été prise par la Russie. Mais par contre, la zone, là, je pense, ressemble assez à ce que j'ai décrit. D'ailleurs, j'ai un de vos confrères, un journaliste, qui lui est un spécialiste de l'Europe de l'Est, qui était allé dans ce delta du Danube. Alors c'est toujours un peu flippant hein, quand quelqu'un vous dit « je suis un spécialiste de l'Europe de l'Est ». Mais il m'a dit qu'il avait reconnu l'ambiance et les lieux. Il avait vraiment eu l'impression d'y être, ce qui me fait toujours très plaisir. C'est-à-dire que j'ai bien fait mon travail. Mais voilà, je reste quand même un peu un illusionniste là-dessus. C'est-à-dire que je fais en sorte que vous puissiez y croire, mais heureusement pour moi, je n'ai pas forcément fréquenté tous les lieux que je décris.
Je partage juste un extrait là, justement, concernant ce réseau labyrinthique de cette mangrove de joncs et d'arbustes jusqu'à la frontière roumaine. Leur embarcation fendait la surface trouble des eaux du delta depuis une bonne heure. Autour d'eux, des roseaux s'élevaient partout, oscillant doucement sous la brise. Des centaines de canaux s'entrecroisaient, chaque tournant ressemblant à l'autre, et des myriades d'oiseaux s'envolaient régulièrement à leur approche pour rejoindre le ciel dont les nuages étaient si bas qu'ils écrasaient le paysage. Parce que le voyage dans la soute de ce pauvre soldat russe qui choisit, qui fait le choix périlleux de déserter, on suit aussi, on est avec eux dans l'obscurité, dans cet univers de soute, de cuirasse, de bruit, de chaîne, de contrôle, où on leur dit vous fermez vos gueules, en gros, hein, vous fermez vos gueules. Et alors ça, Nico, moi j'ai appris maintenant, si jamais j'étais, ce qui n'est pas mon cas, un gros trafiquant de je ne sais pas quoi, de lingots d'or ou de drogue, et que je sois dans les cales d'un cargo fluvial, si je veux éloigner ou tromper le flair de chien policier, je sais comment faire maintenant, je sais quoi mettre sur mes vêtements.
C'est un peu dangereux.
C'est gâché un peu. Mais ça, c'est, comment vous savez ces choses-là? Donc il faut mettre de l'essence. Et comment vous savez ce genre de détails? Où allez-vous l'épuiser? C'est ça qui est formidable.
Écoutez, c'est la curiosité de l'auteur. Il faut, je pense qu'un des... Pareil, on demande souvent à un romancier où est-ce que vous allez tirer toutes ces idées. Je pense qu'il faut être très curieux. Donc ce genre de détails, on l'a sur des podcasts, on l'entend au détour d'une interview d'une personne qui, elle, sait exactement de quoi elle parle, puisque c'est son métier. Et on le note dans un coin de carnet ou de tête, et on le ressort à point nommé lorsque c'est utile. Des carnets comme ça, j'en ai plein. Hein. Dès que j'ai une info qui est utilisable... Je la mets de côté, on est un peu des vampires aussi quand on écrit des histoires.
Oui, mais vous constituez un petit trésor dans lequel vous puisez pour les prochaines œuvres à venir. Alors par exemple, je l'avais dit avant la pause musicale, il y a tout de même le Danube charrie parfois des cadavres. Il y a elle a la quarantaine, hein, elle a la quarantaine, elle a beauté brute d'une fille de la rue, elle s'appelle Lena Horst, elle habite à Berlin, elle est convoquée par la police qui lui demande de se rendre à l'hôpital de la Charité. Alors c'est bizarre, on est en Allemagne, mais l'hôpital a un nom français, l'hôpital de la Charité. Et on lui demande d'aller identifier un corps à la morgue.
Mais oui, et malheureusement, ce corps va se révéler être celui de sa sœur. Hope, que l'on a retrouvé effectivement dans le Danube.
Elle y a passé 4 à 6 semaines quand même.
Ouais, emmailloté dans du papier aluminium.
Mais alors, c'est quoi cette histoire de cadavre entouré de papier aluminium?
Alors, c'est encore un détail réel. C'est-à-dire qu'il y a un endroit en Bavière, sur le Danube, où il y a une écluse où on a retrouvé. C'est des affaires réelles, hein. des corps emmaillotés dans du papier alu. Rien à... Pardon. Rien à voir avec le... Avec le hameau, etc. Hein, c'est une affaire criminelle. Mais je trouvais que l'image était quand même assez marquante. Cette histoire d'emmaillotement dans du papier alu. J'imagine, hein, pour... peut-être pour éviter qu'il y ait des sécrétions corporelles qui s'échappent ou quelque chose, que le tueur a dû faire ça pour cette raison-là. Je l'avais noté, pareil, dans
oui,
un
oui.
coin.
Non, mais ça surprend. On se dit, tiens, pourquoi donc un cadavre enrubanné dans de l'aluminium ? Alors, ouais. Justement, Lena Horst reconnaît à travers ce cadavre, sa jeune sœur, dont le corps donc a été retrouvé dans le Danube. Là aussi, elle veut. Alors, elle a une activité professionnelle très étrange puisque ouais, elle travaille dans un salon de massage, mais qui en fait est une sorte de maison close, quoi.
Oui, bah ça c'est oui. Disons que Lena est une femme qui vit dans les bas-fonds hein, de Berlin. Elle est forcée de faire un métier qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Bon, vous découvrirez dans le roman exactement ce que c'est. Hein. Mais effectivement, le personnage de Lena est très fort parce que...
Elle est plutôt seule, il n'y a pas de famille.
Elle est seule, elle est même très seule.
Il y a
fait.
Un bon voisin, M. Müller.
Mmh. Oui, oui.
Mais elle est très seule, courageuse et je trouve elle est forte.
Ben, c'est un personnage, oui, qui va de l'avant. C'est-à-dire que... Par exemple, Paul a cet héritage qui lui tombe sur la tête et est très tiraillé. Elle n'a qu'une envie, c'est de comprendre qui a pu tuer sa sœur. Et elle va se heurter à des difficultés un peu judiciaires, puisque effectivement, lorsque la scène de crime d'un corps n'est pas dans le pays où on le découvre, eh bien, ça demande une collaboration entre les services de police qui peut ralentir l'enquête ou la procédure. Et elle ne va pas avoir envie de ralentir quoi que ce soit, et donc elle va prendre son sac à dos et décider d'enquêter par elle-même, ce qui donne un personnage avec une vraie motivation et un vrai moteur pour, je dirais, la partie polar du livre. Puisqu'en fait, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu trois trajectoires qui sont différentes. Paul est vraiment dans une partie plus thriller et jeu de piste, d'une certaine manière, avec cette histoire de médaille. Dimitri, on est vraiment dans du roman noir. On est dans un personnage qui traverse une réalité, je dirais, politique, géopolitique, stratégique, etc. Et Lena, on est vraiment dans une enquête. On est vraiment dans du polar. Donc, en fait, il y a plusieurs manières d'entrer dans ce roman.
C'est-à-dire que Paul, il est, d'une certaine manière, attendu au hameau. Lena, son enquête va la guider vers ce lieu faussement idéal. Et puis effectivement, le soldat russe, il s'y retrouve un peu par naufrage.
Oui, en tout cas, il a le destin, on va dire, l'amène là. On peut dire le destin parce qu'il a des capacités, il a un talent qui fonctionne bien avec ce lieu aussi, qui est reconnu dans ce lieu.
Alors le destin, oui, mais il y a une jeune femme au hameau qui accueille, j'allais dire, notre soldat russe naufragé. Elle lui dit, ce n'est pas, c'est le hasard qui vous a conduit ici.
Oui, oui. Alors bon, là, on rentre dans le cœur du sujet, donc on peut encore, je veux dire, on est obligé de vraiment le tenir à distance. Mais ce qu'on va dire, c'est que tous ces personnages ont, au sens, je dirais, quasiment mythologique du terme, ont une trajectoire, des fils dont les liens se tissent vraiment de manière subtile. Là, on vous raconte beaucoup de choses, mais petit à petit, vous allez découvrir tout ça et puis vous allez essayer de recomposer la tapisserie vous-même. Mais pour moi, Dimitri, donc ce soldat, est très important parce qu'il est comment dire, il est à une forme de passeur en fait dans ce roman, de passeur entre les personnages, et on s'en rend compte petit à petit en fait, alors qu'il, à la base, on pensait qu'il était totalement déconnecté de tout ça.
Alors il y a aussi beaucoup question de on pourrait dire de cycle, bon, oui. Et surtout de pont, de passerelle. C'est un thème qui est assez important. Bon, une passerelle, un pont, c'est, enfin, surtout pour le Danube, un pont, c'est indispensable pour passer d'un côté et de l'autre. Il y a l'idée de passage d'une rive à une autre, et là encore symboliquement, du côté des vivants vers peut-être celui des morts. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, Nico, j'avais parlé du Danube comme une sorte de Styx. Peut-être faut-il rappeler au passage ce qu'était le Styx, oui, pour rafraîchir la mémoire de celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, dans la mythologie grecque, le Styx, le fleuve des enfers, qui en fait était la barrière à franchir entre la vie et la mort. Sur ce fleuve, il y avait une barque, et dans cette barque, il y avait un passeur qui s'appelait Charon, et qui demandait une obole. L'obole pour pouvoir payer son passage d'une rive à l'autre. Mais bien entendu, une fois qu'on avait rejoint la rive des morts, c'était beaucoup plus compliqué d'en revenir.
Alors, on ne peut pas trop en dire sur le hameau. Juste une phrase extraite du roman. Le hameau est bien plus qu'un simple lieu. C'est une tentative désespérée de reconstruire une vérité qui s'effrite. Alors, la vérité, tout le monde est un petit peu à sa recherche. Surtout Paul veut connaître, savoir qui est ce père fantôme, c'est-à-dire enlever le côté fantomatique du père et peut-être enfin le connaître, même s'il ne verra jamais son corps. À un moment, il sera sur la stèle où repose son père. Lena Horst, la berlinoise, elle veut connaître la vérité, savoir qui a tué et jeté le corps de sa petite sœur dans le Danube. D'ailleurs, il y a tout de même des phrases très, très positives. J'ai relevé « Dieu est avec les justes », parce que c'est sombre, mais à la fois, il y a ce fleuve noir qu'est le Danube, mais il y a quand même de l'éclat. Par exemple, les criminels, je ne sais plus qui dit à Lena « on les retrouve toujours ». C'est-à-dire que finalement, la justice triomphe toujours. Et puis, qu'avais-je noté ? Oui, il y a une étoile pour chacun de nous. Ça, j'aime bien aussi cette idée qu'il y a une étoile pour...
Écoutez, il faut, quand on fait du noir, il faut toujours qu'il y ait de la lumière. Vous savez que l'obscurité n'existe pas sans lumière. Donc, c'est très important. Moi, dans tous mes livres, en fait, je joue avec les codes du noir. Le fait de se faire peur, le fait de dépeindre des situations, des trajectoires sombres, parfois des crimes... Des psychologies de tueurs, etc. C'est quelque chose qui, en fait, permet aux gens, d'une certaine manière, de moins être tributaires de celles qui sont dans leur réalité. Hein. Quand on est dans une fiction, finalement, on va se laver un peu la tête avec des histoires comme ça qui font peur, pour oublier qu'à l'extérieur, c'est peut-être encore pire qu'à l'intérieur des romans. Voilà. Mais néanmoins, dans mes romans, il y a toujours une part de lumière aussi, c'est-à-dire de rappeler aussi que dans l'existence, quand tout va mal, il y a toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Et ça, c'est, je trouve, très important. J'ai jamais, je pense, jamais écrit un roman dans lequel la noirceur a été assumée jusqu'au bout. C'est jamais le cas.
Alors, j'avais parlé de cycle, mais la roue tourne dans ce roman. Hein. Parfois c'est l'hiver, parfois c'est l'été, hein, justement. Exactement. Ça aussi, c'est quand même le côté gris, sombre, mais de temps en temps, il y a clarté et lumière. Et là, une jolie description du Danube. On a parlé du Styx, mais là, c'est une vision d'un Danube poétisé.
Oui.
Au-delà, le Danube scintillait de reflets d'argent, semblables à d'innombrables écailles sur le corps d'un serpent qui n'en finissait pas de s'étirer.
Oui, c'est moi qui ai écrit ça ?
Oui, absolument, page 313 précisément. Nico Takian, alors là encore, grâce à vous, j'ai appris, c'est un des personnages qui veut aider à faire avancer l'enquête policière d'une certaine manière, qui parle du forum, alors comment...
True Crime.
True Crime. Qu'est-ce donc ? C'est authentique ? Ça existe ?
Bien sûr, alors, oui.
Nico Takian, je vous laisse expliquer ça.
Il y a une grande mode même, je dirais, le True Crime, c'est la manière dont le public, dont monsieur et madame tout le monde, se réapproprie le travail d'investigation sur des affaires criminelles. À la base, ça vient des États-Unis. C'est des groupes de gens sur les réseaux sociaux qui se retrouvent et qui disent, par exemple, moi, telle affaire... Alors, c'est sur des affaires non élucidées, hein, souvent
des cold cases.
Souvent des cold cases. Mais ça peut être des affaires qui sont plus récentes, des fois un an en arrière, où il peut y avoir encore un travail policier dessus. Donc ça veut dire que souvent ça peut interférer aussi avec le travail policier. Donc les gens se réunissent sur les réseaux sociaux et puis ils commencent à donner leurs théories, mais aussi ils font des recherches. Donc ils vont sur place, ils prennent des photos, ils font un travail policier en fait. Et ils vont aller assez loin. Aux États-Unis, certains groupes de true crime ont résolu des affaires. Donc, ou forcer la police à réouvrir des affaires en prenant les éléments qu'ils avaient trouvés pour réenquêter. Et c'est devenu une mode assez, assez dingue, parce qu'il y a des auteurs hein, qui sont nés de cette mode, puisque des gens ont commencé à écrire des histoires dont les héros sont des gens qui font du true crime. Et c'est même une mode littéraire, le true crime. Maintenant, il y a des bouquins qui sont donc tournés comme ça. Les enquêteurs ne sont plus des flics, les enquêteurs sont monsieur et madame tout le monde. Et en France, bien évidemment, il y a des forums et des réseaux sociaux de true crime aussi. Donc ça existe bien, oui.
Merci Nico Tacquian pour cette précision, et je rappelle et confie à nos auditrices et auditeurs donc le titre de votre dernier livre, c'est Le Hameau, c'est chez Kalman Levy, donc Paul, Dmitri, Lena. Ils ne se connaissent pas, nos trois personnages, ils ne se connaissent pas, et pourtant leur destin converge à travers l'Europe, lié par le Danube et par un lieu interdit, le Hameau, le titre de ce dernier thriller. Merci Nico Tacquian d'avoir été en notre compagnie. Et puis pour celles et ceux qui auraient lamentablement raté notre émission, pas de panique, on se rend sur le site du podcast, c'est yannickpetit.fr, et on retrouve Nico Tacquian et le Hameau. Merci Nico.
Merci Yannick.
Au revoir, je salue nos auditrices et auditeurs. Je rappelle que cet entretien a été enregistré le 25 mars 2026 à Dijon, au Grand Hôtel de la Cloche, alors que notre invité était lui-même sollicité par le Club des écrivains de Bourgogne. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.